Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter d'école. Accrochez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme chaque soir par ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 9 novembre avec le journal de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un embouteillage.
Oui, autour de la tombe du général de Gaulle et de son héritage. 51 ans après sa mort, de nombreux candidats à la présidentielle lui ont rendu hommage aujourd'hui. À droite en particulier, où les 5 candidats à l'investiture des Républicains se sont retrouvés à Colombey, les deux églises, la photo de famille dans un instant. C'est ce jour qu'a choisi Emmanuel Macron pour parler aux Français. 9e allocution présidentielle ce soir depuis le début de la crise sanitaire. Le chef de l'État qui consacrera une large partie de son intervention à la situation sanitaire. On en profitera pour faire un point dans ce journal sur la vaccination en France. À suivre aussi l'immigration, moteur de la croissance économique dans l'Hexagone. De nouvelles accusations de violences sexuelles contre PPDA. La réclusion à perpétuité requise contre le principal accusé dans le meurtre de Mireille Knoll, et puis la restitution de 26 œuvres au Bénin. Réaction sur place en Afrique à la fin de ce journal.
Et ce soir, on ne se quitte pas à 18h15, un jour dans le monde, avec un documentaire qui filme des gens revenus au Cameroun ou au Sénégal après un échec d'immigration. Ils n'ont rien trouvé, ils sont rentrés. Vous verrez combien leur vie est difficile au retour. À 19h20, c'est le téléphone sonne. En attendant le président, on va tâcher ensemble de faire un peu le tour des dernières nouvelles du Covid. On l'avait un peu seulement, mais un peu quand même oublié. Il se rappelle à notre bon souvenir avec des cas en hausse. Alors, est-ce qu'on fait accélérer la troisième dose? Que faut-il penser du débat sur les enfants de 5 à 11 ans? Sommes-nous condamnés à reporter le masque, à votre avis, en extérieur? À vos questions, vos réflexions, au 01 45 24 7000. Et puis, on écoutera le président ensemble. Ce sera juste après 20h.
France Inter.
De l'usage de la figure du général partant de campagne présidentielle.
Le défilé autour de la tombe de Gaulle pour commémorer l'anniversaire de sa mort est un incontournable de la politique française, surtout en ce moment où l'on se dispute son héritage. Aujourd'hui, pour célébrer les 51 ans de sa mort, on ne compte plus les candidats, les partis qui s'y réfèrent. La socialiste Anne Hidalgo, qui s'est rendue ce matin à Colombey les deux églises et qui se définit comme une gaulliste du 18 juin. Le Premier ministre Jean Castex, qui a déposé ce matin une gerbe sur la tombe du général et qui se définit, lui, comme un gaulliste social. Marine Le Pen, elle, était à Bayeux pour célébrer, je cite, la France souveraine, indépendante et fière du général. Ne manquez plus que les candidats à l'investiture des LR pour 2022. Tous les 5 se sont réunis, eux aussi, aujourd'hui, à Colombey, les deux églises. La famille gaulliste en pèlerinage, comme les gardiens du temple. C'est le reportage d'Anne Souhaitement.
Monsieur Bertrand, c'est important cette photo de famille.
Oui, bien sûr. 9 novembre, c'est le 9 novembre.
Photo de famille, carte postale, appelez-le comme vous voulez. Malgré une compétition interne et un premier débat hier soir, aujourd'hui la droite a affiché son unité. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier, Philippe Juvin, les 5 candidats LR à la présidentielle ont déposé ensemble une gerbe ici à Colombey pour le plus grand plaisir du patron du parti, Christian Jacob.
Et cette image, on y tenait, c'est comme ça que nous avons gagné les élections municipales, les élections départementales, les élections régionales, en étant rassemblés. Et c'est comme ça que nous allons gagner l'élection présidentielle.
Mais en venant rendre hommage au général de Gaulle, figure tutélaire à droite, les candidats à la présidentielle viennent aussi faire campagne.
Pas d'usurpation d'héritage non plus.
Valérie Pécresse lâche ses coups contre des Marine Le Pen et Éric Zemmour qui tentent de s'inventer une filiation gaulliste.
Les vrais gaullistes, c'est nous. Le général de Gaulle, aujourd'hui, s'il revenait, je pense que c'est nos solutions qu'il adopterait.
Coup de griffe aussi du côté de Michel Barnier.
Pourquoi le général de Gaulle rassemble?
Parce que c'était sa vocation, rassembler les Français, et de porter un projet national, jamais nationaliste.
Un moment d'unité, le temps d'une commémoration. Dès ce soir, les 5 candidats LR au Congrès reprennent leur campagne, chacun son meeting.
Leur portage d'Anne Souhaitement à Colombey, les deux églises. Hasard ou pas du calendrier, Emmanuel Macron lui s'adressera pour la 9e fois aux Français ce soir. Émission spéciale sur Inter à partir de 20h. Plusieurs sujets au programme, l'avenir des réformes sur l'assurance chômage, sur les retraites. Faut-il revaloriser les salaires? Mais le gros morceau devrait être bien sûr consacré à la situation sanitaire et à la question de savoir comment inciter les Français éligibles à prendre leur troisième dose de vaccin contre le Covid. En attendant 20h, arrêtons-nous un instant sur l'état de la vaccination en France. On s'y perd un peu depuis quelques jours, surtout depuis que le Moderna, par exemple, n'est plus recommandé depuis hier pour les moins de 30 ans à cause des risques de myocardite. Bref, qui se vaccine et avec quoi aujourd'hui? Ce qui est clair, Véronique Julia, c'est que le vaccin Pfizer reste la superstar.
En date d'hier, plus de 100 millions d'injections avaient été faites en France depuis le début de la campagne. Et le vaccin Pfizer domine, on peut le dire, de façon écrasante. Il représente 80% des injections, loin devant Moderna, 11%, AstraZeneca, 7% à peu près, et le reste pour Janssen. Il faut dire que Pfizer a eu un cheminement plus fluide, efficacité, tolérance, il a coché les cases et donc tout de suite gagné la confiance. Quand les autres ont eu des accidents de parcours, des problèmes de thrombose et de coagulation chez des patients jeunes avec AstraZeneca, ont rapidement limité l'usage de ce vaccin aux plus de 55 ans. Quant à Janssen, prescrit au départ en monodose, il a fallu lui ajouter, faute d'efficacité, un rappel de vaccin ARN messager. Pour la troisième dose, c'est encore du vaccin ARN messager qui est indiqué. Pfizer sans limite, Moderna uniquement pour les plus de 30 ans désormais, à cause de rares cas d'inflammation cardiaque chez les jeunes. Tous ces rebondissements ont achevé de consacrer Pfizer sur la plus haute marge, d'autant que son mode de conservation, qui s'est simplifié, permet depuis début octobre de le distribuer aussi en médecine de ville. Médecine de ville qui n'a tout bonnement plus accès ni à Astra ni à Janssen depuis des semaines. Le nombre d'injections avec ces vaccins est devenu clairement résiduel et leur stock prioritairement envoyé désormais vers les pays pauvres.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter. Ajoutons au chapitre sanitaire encore cette décision du Conseil constitutionnel qui valide le recours possible au pass sanitaire jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, mais qui censure le fait pour les directeurs d'établissements scolaires d'avoir accès au statut vaccinal des élèves.
Des milliers de migrants se massent depuis hier à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Nous vous en parlions dès hier soir. 3 à 4 000 migrants, en effet, sont actuellement bloqués à la frontière entre ces deux pays, entassés dans des conditions misérables par des températures frôlant les 0 degrés. La Pologne accuse ses voisins biélorusses et russes d'orchestrer cet afflux pour déstabiliser l'Union européenne. Varsovie, soutenue par Bruxelles et notamment par Paris, qui accuse la Biélorussie d'alimenter le trafic de migrants. En face, le régime de Loukachenko, lui, ne cède pas d'un pouce. Après un échange téléphonique avec Vladimir Poutine, le président biélorusse affirme dans une interview, je cite, qu'il ne se mettra pas à genoux. L'immigration au cœur d'un rapport éclairant du Centre d'analyse économique, cette instance de réflexion rattachée à Matignon, le CAE, qui intitule sa dernière étude « L'immigration qualifiée, un visa pour la croissance ». Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Alors que doit-on retenir de cette note destinée à l'exécutif ?
Eh bien que la France, c'est la mauvaise élève de l'immigration qualifiée, bien en peine d'attirer les talents étrangers, puis de conserver les étudiants venus de l'étranger pour se former dans les universités françaises, dans un débat dominé par l'identité française. L'impact économique nécessaire pour porter la croissance est totalement délaissé, se désolent les chercheurs, avec d'un côté des entreprises soumises aux aléas, à l'arbitraire de leur préfecture, des procédures peu lisibles, trop lourdes pour faire venir les talents pourtant recherchés. Notre croissance sera plus faible à la traîne des autres pays européens capables, eux, de faire venir les qualifications en tension sur le marché du travail. Les auteurs de cette note recommandent donc au gouvernement de la transparence, de changer les règles de l'immigration qualifiée, avec par exemple, comme au Canada, la possibilité pour tout étranger de mesurer lui-même si ses diplômes, ses compétences sont ouvertes à l'immigration qualifiée en France. Les passeports talents censés répondre à cette problématique n'ont jamais décollé. Les contraintes administratives, l'absence d'affichage politique, eh bien, fait que tout cela, avec tout cela, la France est aujourd'hui délaissée par les talents étrangers qui font pourtant cruellement défaut dans l'informatique, les banques, le commerce et encore le BTP.
Laurent Kramer, merci du service économie de France Inter. L'inquiétude grandit en Mayenne 24 heures après la disparition d'une jeune fille de 17 ans partie faire un jogging hier sur la commune de Saint-Brice. 200 gendarmes sont mobilisés pour tenter de la retrouver. Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte par le parquet de Laval.
C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire PPDA.
Une première enquête avait été classée sans suite en juin dernier, mais nos confrères de Libération pu recueillir ce matin de nouveaux témoignages, ceux de 8 femmes affirmant avoir subi des violences sexuelles de la part de Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-star de TF1, des agressions subies du début des années 90 jusqu'en 2008. Il ne s'agit pas de témoignages anonymes, cette fois ces journalistes, ces écrivaines ou encore anciennes employées de TF1 parlent toutes à visage découvert et France Inter a pu joindre aussi plusieurs de ces victimes. victimes. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Sébastien.
Ce que disent ces femmes, c'est qu'elles ont parlé à l'époque à leur hiérarchie, mais que rien n'a bougé.
Oui, et la plupart de ces victimes racontent le même mode opératoire. Patrick Poivre d'Arvor les invite à assister au journal de 20h, puis il s'isole avec elles dans son bureau avant de les violer ou de les agresser sexuellement. C'est ce qu'a subi Muriel Réus il y a 16 ans. Elle était à l'époque adjointe d'une filiale de TF1 et elle n'a pas hésité à alerter le PDG de la chaîne.
Le lendemain matin, tôt, j'ai appelé Patrick Lelay pour lui raconter cet incident. Et à ce moment-là, Patrick Lelay m'a dit « Mais non, il n'a pas osé aussi avec toi. » Il m'a dit « Je m'en occupe. » J'ai très vite compris que la direction était au courant puisque je n'avais même pas déroulé le fil de cette histoire, que la réaction du président était celle-là. Il y a eu une omerta, oui.
Une omerta que confirme la journaliste Cécile Delarue, 43 ans. Aujourd'hui, elle en a 22 quand elle est recrutée par TF1 et ouvertement draguée devant ses supérieurs par PPDA.
La première chose qu'on m'a dit de la TF1, c'est « on te prend parce qu'on n'a pas trouvé d'homme ». La deuxième chose qu'on m'a dite, c'est « tu n'as pas intérêt à tomber enceinte ». La troisième chose qu'on m'a dite, c'était mes collègues qui m'ont dit « est-ce qu'il te l'a fait ? Tu vas voir, il y a un moment où il va essayer de tenter sa chance ».
Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce que tout le monde savait ? Moi, je savais qu'il avait un comportement inapproprié, je ne savais pas qu'il violait.
Une vingtaine de femmes ont témoigné, 8 ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle, des plaintes classées, faute de preuves ou les faits étant prescrits.
Thibault Lefèvre, direction maintenant la cour d'assises de Paris pour le procès du meurtre de Mireille Knoll, cette vieille dame juive de 85 ans, tuée en 2018 de 11 coups de couteau à Paris. C'était aujourd'hui l'heure des réquisitions, la perpétuité pour l'un et 18 ans de réclusion pour l'autre, avec la circonstance aggravante de l'antisémitisme retenu pour les deux hommes. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
En direct de la cour d'assises de Paris. Selon l'avocat général, il n'y a pas eu deux meurtriers dans cette affaire, mais un meurtrier et un voleur.
Yassine Mioub est le seul responsable du meurtre sauvage de Mireille Knoll, lance l'avocat général. Dans un réquisitoire d'un peu plus de 2 heures, il raisonne par élimination entre les deux versions contradictoires des accusés et il ne croit pas le récit de Yassine Mioub, lui, le voisin qui connaissait la vieille dame. Il ment, assure l'avocat général. Le meurtre repose sur ses épaules. Son co-accusé, Alex Karim Bacchus, lui, a vu la mort de Mireille Knoll. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a volé quand son cadavre était encore chaud. Sur la question de l'antisémitisme, l'accusation explique que Yassine Mioub a bien agi dans ce contexte qui le caractérise et que comme un poison, son antisémitisme a atteint son co-accusé. L'avocat général regarde droit dans les yeux. Yassine Mioub a fallé derrière la vitre de son box. Si vous aviez lu le journal d'Anne Frank, vous auriez vu dans le regard de Mireille Knoll avant de la poignarder, le même regard qu'avait Anne Frank au bruit des bottes dans la maison où elle a été cachée.
Mathilde Vincent, en direct de la cour d'assises de Paris. La Haute-Corse, la Corse du Sud, placée en vigilance orange, pluie, inondation ce soir. Un événement sérieux selon Météo France, des orages attendus à partir de 22h et jusqu'en fin d'après-midi demain. Les collèges et lycées de Servionne, Corté et du Fiumorbou seront fermés pour la journée de demain.
C'est un jour mémorable pour le Bénin.
Le Bénin qui a récupéré aujourd'hui 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillés au 19e siècle par les troupes coloniales et conservées depuis au musée parisien du Quai Branly à Paris. La fin d'un processus politique et culturel de plus de 4 ans. Un retour salué par les Béninois. C'est la correspondance à Dakar signée Omar Waman.
Le retour de ces œuvres d'art est historique, insiste Florentin Nangbé, professeur de sociologie à l'université d'Abomey-Calavi, près de Cotonou, au Bénin.
C'est une grande fierté pour moi d'entendre le retour de ces œuvres d'art qui symbolisent l'existence aujourd'hui immatérielle de mes aïeux.
Car toutes ces pièces ont un point commun, elles ont été volées lors du pillage du palais d'Abomey en 1892, capitale de l'ancien royaume du Dahomey, actuelle République du Bénin.
Parce que quand on parle par exemple de la colonisation aux jeunes, ils n'y comprenaient rien pratiquement. Et maintenant, ils cherchent à comprendre mieux ce qui s'était passé.
Et ce retour au pays est au cœur de toutes les conversations au Bénin, selon Marie-Cécile Zinzou, présidente de la fondation qui porte son nom.
C'est un sujet qui est vraiment partout à Cotonou. Les gens parlent beaucoup de ça ces derniers temps parce que c'était impossible. Le patrimoine français est inaliénable. Donc quand un objet rentre dans les collections du patrimoine français, il n'en ressort plus jamais. Et puis, voilà, il y a eu cette loi d'exception et ce changement de paradigme total. Du coup, évidemment, aujourd'hui, de se dire que les gens vont enfin pouvoir y avoir accès librement quand ils le souhaitent, c'est merveilleux.
Et selon plusieurs experts, des milliers d'œuvres se trouveraient hors du continent africain et réclamées par de nombreux pays comme le Congo ou le Nigeria.
Un dernier mot pour saluer le succès populaire de l'Arc de Triomphe, emballé par Christo et son épouse. 6 millions de personnes sont venues au mois de septembre dernier sur les Champs-Élysées pour admirer cette dernière œuvre posthume de l'artiste bulgare.
Dont vous et moi, peut-être
Eh bien, je l'ai raté, figurez-vous, ah ben, bravo, je m'en fais beaucoup.
Pourtant, on le voyait très très bien.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Sébastien. À tout de suite, évidemment, dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment de l'image vraiment qui marque la COP26, ce ministre qui fait sa conférence de presse dans l'eau. On expliquera pourquoi dans un tout petit instant. Ce soir, on discute avec la réalisatrice d'un documentaire. Elle a filmé des gens qui retournent dans leur pays après une tentative d'exil en Europe ratée. Vous verrez combien leur vie n'est pas simple une fois rentrée. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne ce soir. En attendant l'intervention du président, essayons de faire ensemble un point Covid. On va voir un peu où nous en sommes, où vous en êtes sur cette troisième dose. Est-ce qu'il faut l'étendre selon vous plus rapidement aux moins de 65 ans sur la vaccination des enfants les plus petits, les 5-11 ans? Est-ce que nous sommes devant une recrudescence des contaminations qui doit nous inquiéter? Où est-ce que vous en êtes avec les gestes barrières? Est-ce qu'on dit qu'on a repris une vie quasi normale, qu'on ne reviendra jamais en arrière? Est-ce que vous avez quand même encore une pointe de crainte? Tout ça au 01 45 24 7000 avant donc de suivre Emmanuel Macron ensemble. Un mot de météo avant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Vigilance orange pour la Corse, Élodie.
Oui, bonsoir. Entre ce soir et demain, en effet, on attend des pluies soutenues et orageuses sur l'île. Elles donneront des quantités de pluie importantes, surtout sur le relief, l'est et le sud. Le vent d'est sera assez fort. Autour de la Méditerranée, on a également des pluies qui déborderont. Alors, elles seront faibles le matin, un peu plus marquées l'après-midi. En montagne, sur l'est des Pyrénées et sur le sud des Alpes, vous aurez de la neige à partir de 2200 mètres. Et puis, des nuages déborderont également vers Midi-Pyrénées, le massif central et le nord des Alpes.
Et sinon, ailleurs, Élodie, c'est plus calme.
Oui, avec de belles éclaircies après la dissipation de la grisaille matinale. Alors un peu de patience quand même de l'Orléanais vers la région parisienne, Champagne-Ardennes. La grisaille aura parfois bien du mal à se dissiper. Près de la Manche, ça restera bien nuageux avec quelques gouttes. Le matin, il fera bien frais, Fabienne, souvent moins 2 à 2 degrés. Et puis l'après-midi, 8 à 15 degrés jusqu'à 20 en Méditerranée.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, après 19h.